Hey Mimi, mon pinceau, j'entends rien.
C'était ton idée de repeindre les volets et c'est pas le moment. T'as qu'à descendre de l'échelle si tu veux suivre l'agité du local.
Vous vous êtes déjà entendu dire « ça n'arrive qu'à moi ». À une époque, on disait s'être mis dans de beaux draps quand on se mettait dans une situation compliquée dont on n'allait pas sortir facilement, quand on se retrouvait avec un vrai problème à régler. Il y a des jours où on pense que tout nous tombe dessus, mais ce n'est rien, à côté de ceux qui se retrouvent quotidiennement à gérer, par exemple, de vrais crimes. Et pourtant, on est nombreux à aimer se plonger dans ce type d'histoire un peu sordide, loin de ce qui semble pouvoir nous arriver le matin ou alors en arrivant au travail. Mon invité d'aujourd'hui aime lui aussi ce genre d'histoire. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a choisi d'en écrire et même d'en faire des romans policiers. Et aujourd'hui, il va nous parler de son dernier ouvrage titré « Sous le phare ». Bonjour Jean-Yves Moisy, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Vous êtes Mayennais, c'est votre troisième roman dont on va parler ensemble dans quelques instants. Dans la suite de l'émission, jetterai ensemble un coup d'œil sur l'actualité en Mayenne et un petit regard sur la météo. En seconde partie d'émission, on écoutera notre dernier entretien des élections européennes réalisé en partenariat avec Radio Fidélité, un entretien signé Isabelle Rupin, merci à elle. Et l'on termine en poésie, en beauté, tout en finesse et tout en mots bien choisis avec notre chroniqueur donatien comme chaque mardi. Mais je le disais, aujourd'hui je suis en très très bonne compagnie puisque je suis avec l'auteur Jean-Yves Moisy pour votre roman policier Sous le phare qui est tout juste publié si je ne me trompe pas.
Ah, il sort voilà. Il y a quelques jours de l'imprimerie Jouve en Mayenne parce que c'est un produit local, circuit court.
C'est ça, exactement. C'est votre troisième roman après La fille de San Gimignano et Le mystère de l'œil sans corps. Aujourd'hui, donc, vous venez nous parler de Sous le phare que l'on pourra retrouver dans une dizaine de librairies en Mayenne, en Sarthe et en Loire-Atlantique. C'est bien ça?
C'est cela. Et je l'ai déposé ce matin à la librairie M Lire à Château-Gontier qui effectivement accueille des auteurs. Avec une séance de dédicace qui sera programmée, je pense, à la rentrée, après l'été.
Et on ne manquera pas de la préciser, surtout tenez-nous bien au courant. Alors c'est un roman que je n'ai pas lu, par contre la thématique ou la toile de fond, on peut le dire comme ça, de ce polar m'a beaucoup interpellé, Jean-Yves. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire peut-être en quelques mots l'histoire que vous nous racontez dans ce roman?
Eh bien, j'ai découvert un phénomène qui est ancré depuis très longtemps dans la culture indienne, mais également dans d'autres pays, c'est le phénomène du colorisme, du whitening, où les femmes cherchent à s'éclaircir la peau, alors que nous, les Occidentaux, on cherche plutôt à aller se bronzer sur les plages. Et c'est un phénomène qui s'est développé en Inde, sans doute associé à la notion de pureté, mais aussi sur l'ensemble du sud asiatique, en Afrique, et puis également dans les Caraïbes, aux Antilles, par exemple. Et on le voit quand on découvre, par exemple, tout ce qui tourne autour de la mode, autour d'une mannequinat en Inde, où la plupart des femmes qui sont des mannequins sont des femmes qui ont une peau plutôt claire. Parce que effectivement, on considérait que en Inde, il y avait une distinction entre les personnes qui travaillaient à l'extérieur, qui avaient les peaux plus foncées du fait du soleil, et qui occupaient les emplois un peu subalternes, alors que les personnes qui travaillaient plutôt à l'intérieur occupaient des emplois plutôt valorisants. Et donc, par mimétisme, les femmes ont cherché en Inde à avoir la peau de plus en plus claire, à utiliser des produits, et ce qui a permis de développer tout un commerce que les entreprises de la cosmétique se sont empressées de s'emparer. Et aujourd'hui, on a des marques internationales qui ont développé ce type de produits.
Donc effectivement, ça c'est la toile de fond de l'histoire que vous nous racontez. Ça nous parle également des mines de mica, de l'exploitation même des enfants, des femmes, des hommes qui travaillent dans ces mines.
Oui, c'est effectivement une Inde bien loin de celle qui est vantée par les agences touristiques. On est loin de cette Inde de la sérénité, du yoga. On est dans une Inde où... malheureusement, il y a des phénomènes sur l'exploitation des enfants dans les mines de mica, sur la prostitution enfantine. Et donc, c'est un autre visage, c'est un peu la face cachée de l'Inde. On connaît aussi tous les problèmes de l'Inde qu'il y a, l'agression qu'il peut y avoir auprès des femmes, même dans les bus. Et voilà, c'est un coup de projecteur sur une Inde, effectivement, plus cachée.
Et alors, cette enquête commence malgré tout à Paris, avec donc cette enquête est confiée à Thomas Kelleck. Et donc, en fait, il y aura un croisement, un moment entre un corps tombé d'un balcon de la capitale et cette Inde que vous nous racontez aussi en parallèle, finalement.
Oui, c'est cela. C'est un corps qui tombe d'un balcon parisien. Un homme dont on ne connaît pas l'identité, qui n'a aucun papier sur lui. Il va s'avérer effectivement que cet homme est sans doute d'origine indienne, ce qui va nous amener effectivement sur une enquête dont certaines actions se passent en Inde. Et donc le commandant Thomas Kelleck est un commandant de la police judiciaire, qui est un personnage qu'on retrouve dans les deux précédents livres, même si il n'est nullement utile de lire les premiers pour comprendre le troisième. Donc voilà, donc c'est une enquête qui va permettre d'essayer d'identifier cet homme et d'essayer de comprendre pourquoi il a été victime de ce qui est effectivement sans doute un crime.
Et alors le roman policier, on en parlait juste à l'instant avant le début de ce direct, le roman policier c'est un genre bien particulier qui joue sans cesse avec les suspicions du personnage et celles du lecteur. Comment vous construisez votre récit? Est-ce qu'il y a une technique particulière, par exemple, je vous le disais, de post-it ou d'un tableau effaçable pour trouver dans quel ordre est-ce que vous allez nous donner des indices?
Alors non, je n'ai pas de méthode particulière, sans doute qu'il serait bon que je puisse en développer une, parce que quelquefois ça part dans tous les sens dans ma tête, ce qui fait que les nuits quand on écrit sont quelquefois un peu perturbées parce qu'on essaye de trouver ce qui ne va pas, ou le petit grain de sable qui fait que c'est pas cohérent, parce que il est important quand on mène une enquête qu'il y ait une certaine cohérence. J'écris aussi des polars qui sont plutôt plausibles et dont que l'on pourrait retrouver dans la vraie vie, puisqu'en général, d'ailleurs, la fiction est bien en dessous de la réalité, mais je n'ai pas ce côté scolaire à écrire. Et les livres, les trois, ont été écrits de manière très différente. Le premier a été écrit au fil de l'eau, puisque j'ai commencé, je ne savais pas que j'allais écrire un livre, je me suis pris au jeu au fur et à mesure. Le deuxième, à l'inverse, j'ai écrit la fin, et après, effectivement, j'ai détricoté un petit peu une histoire pour la réécrire d'une manière cohérente. Et le troisième, j'avais une idée de départ, cette idée effectivement du colorisme en Inde. Et après, il a fallu bâtir autour de tout cela une architecture, structurer le livre. Et effectivement, c'est le travail à la fois passionnant d'écriture, de documentation, de cohérence.
Et justement, comment se sont passées vos recherches, peut-être pour... on parlait tout à l'heure de la toile de fond, de tout ce contexte qui existe en Inde. Comment vous avez effectué vos recherches pour nourrir votre récit?
Alors, on a la chance d'avoir un outil aujourd'hui qui est Internet, donc qui nous permet d'éviter d'aller dans toutes les bibliothèques et les archives. Par contre, il faut savoir aller au-delà des 3, 4 ou 5 premières pages sur Internet pour aller découvrir des reportages qui ont pu être faits, des documentaires qui ont pu être faits par des journalistes et même documentaires étrangers, et savoir aller prendre dans ces documents les quelques informations, parce qu'il ne s'agit pas non plus de noyer le lecteur.
On n'est pas dans un documentaire, effectivement, mais c'est trouver peut-être les petits... Oui, les petits... Les choses clés qui vont nourrir aussi le récit en même temps.
Oui, parce que on le dit souvent, il faut que ça serve l'histoire, puisque c'est un roman policier. J'ai quelquefois la faiblesse de sortir un petit peu de cette logique. Il y a d'ailleurs une édition de Polar qui existe en France, c'est les éditions La Joanie, où leur base la haine, c'est roman policier, mais pas que. Et donc, effectivement, moi, mon plaisir, c'est qu'on déborde du caractère purement de l'enquête, purement de la violence. Raconter une poursuite en voiture, très bien, mais il ne faut pas que ça prenne 5 pages. Derrière, c'est plutôt une étude des personnages, de comprendre psychologiquement qu'est-ce qu'il a pu se passer et le pourquoi. Parce qu'en fait, quand on résume Un policier, c'est quoi ? Un crime, ou plusieurs, commis d'une certaine manière. Arme blanche, arme à feu, noyade, pendaison, ce qu'on veut. Et, mais derrière, c'est pourquoi ? Et c'est là que c'est intéressant, quoi. Le comment, ça reste accessoire pour moi. On peut s'inventer toutes les violences. Ça peut permettre de se soulager, mais ça n'apporte pas forcément grand-chose à l'histoire. Donc derrière, il y a toujours un fil psychologique, souvent des drames familiaux d'ailleurs.
Et alors, il y a toujours quelque chose, moi, que je trouve assez savoureux dans les policiers, ce sont justement les personnages. Et là, vous venez de nous en parler. Ils sont souvent teintés soit un peu d'humour, soit ils se retrouvent dans un environnement qui leur met totalement des bâtons dans les roues. Chaque situation est différente. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce policier, Thomas Kelleck, que l'on retrouve déjà dans vos deux précédents ouvrages ?
Alors, Thomas Kelleck est un commandant de police qui est quelqu'un d'assez tempéré, voilà. On a quelquefois, et dans le premier roman, des membres dans l'équipe, puisqu'ils ne travaillent jamais seuls. Alors, il y a celui qui est effectivement un peu le buveur de service, il y a celui qui est plutôt grossier. Kelleck est quelqu'un de tempéré. Je pense que ça correspond peut-être plus à mon caractère. On écrit effectivement un petit peu ce qu'on ressent. Mais c'est autour des personnages. Voilà, il y a une adjointe qui a un sixième sens. Il y en a un autre qui a des comportements un peu sexistes. Voilà, on retrouve ces différentes galeries de personnages. Et puis, il y a quelqu'un qui est important et qui est un peu aussi un personnage récurrent dans les trois livres, c'est la compagne de Thomas Kelleck. Et là, j'en dirai pas plus.
C'est souvent en fait cet équilibre entre chaque personnage, chaque caractéristique, chaque trait de personnalité finalement qui rend aussi l'enquête un peu croustillante. Hein. C'est ça qui est essentiel dans l'écriture, de penser à ça en fait.
C'est cela, et puis ce qui permet aussi d'avoir des dialogues avec des expressions, avec un langage qui peut être différent. Et ça aussi, c'est un travail alors, que j'ai appris à faire en écrivant. Le petit voyou du coin, de la banlieue, il ne parle pas comme effectivement un personnage du 16e arrondissement. Et c'est là où il faut trouver le bon langage, ce qui n'est jamais simple parce qu'on écrit plutôt avec le langage de son âge. Et donc, l'œil extérieur, et je vois mes filles qui sont effectivement de leur génération, elles m'ont dit quelquefois, non, ça c'est une expression qu'on n'emploie pas là, c'est une expression qui est un peu datée, quoi. Donc c'est important cet équilibre pour donner du rythme au livre.
Justement, on a reçu Annie André, que vous connaissez très bien la semaine dernière. Est-ce que ça passe également par l'observation, justement, quand on fait parler un personnage ou quand on raconte, quand on décrit, quand on construit un personnage qui n'est pas nous, ça passe énormément par l'observation de ce qu'il y a tout autour de nous ?
Oui, je pense que on accumule de l'expérience, qui est le cas aussi pour Annie. Et donc, il faut essayer de se mettre au cœur, voilà, d'une conversation, il faut écouter. Je crois que c'est important d'écouter la rue, d'écouter à la terrasse d'un café comment parlent les gens, comment ça se passe, parce que on va sinon tomber dans le stéréotype, par exemple, de l'interrogatoire de police. Donc il faut effectivement avoir cette capacité à un moment. Et puis aller chercher dans de la documentation des expressions. On a un style qu'on ne change pas, globalement. Je pense que j'écris à peu près toujours de la même façon. L'histoire, on la monte, on la tricote différemment. J'aime bien effectivement la langue française. Donc j'essaye de faire des phrases qui soient à peu près cohérentes. Mais quelquefois, il faut sortir de ce cadre très académique pour faire parler effectivement ces personnages.
Eh bien, écoutez, merci Jean-Yves. Peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a un auteur policier, vous êtes aussi lecteur, qui vous touche particulièrement, qui vous emmène particulièrement dans ces ouvrages, le genre d'auteur que, quand on ouvre le livre, on ne s'endort pas tant que le livre n'est pas terminé?
Alors, c'est toujours difficile. Moi, j'ai été nourri au James Hadlechaise, j'ai été nourri à Agatha Christie. Il y a des auteurs ou autrices comme Fred Vargas que j'aime beaucoup, je me reconnais assez dans son univers. J'aime pas trop les polars trop violents, même si c'est très bien écrit comme Granger, comme Norek, comme Franck Tilliez. Donc j'aime plutôt les choses assez soft, avec de très belles intrigues. Et voilà, c'est ce qui effectivement fait qu'on nous transporte. Et puis chacun se fait un petit peu sa fin, et son imagination doit nous emmener dans des territoires qui ne sont pas trop des territoires décrits. Quand Olivier Norek nous amène dans les banlieues, c'est trop de l'image de télévision, donc on s'en rend un peu de là. Et puis il y a des auteurs qui sont les auteurs à succès, qui écrivent bien, mais je veux dire que quand on a lu deux ou trois livres de ces auteurs, on a tout compris, quoi.
Oui, c'est une même structure qui se répète.
Complètement.
Voilà. En tout cas, merci Jean-Yves d'avoir été avec nous. Je le rappelle, donc votre dernier roman s'appelle Sous le phare, et donc il est disponible en librairie, notamment à Aime-Lire, mais on pourra également le retrouver dans une dizaine de librairies en Mayenne,
voilà,
a pu dire.
Voilà, complètement, chez Aime-Lire à Laval, la FNAC, librairie des Marais à Mayenne, et c'est effectivement la difficulté quand on est auto-édité de pouvoir aller au-delà de son département.
Et donc de l'importance de vous soutenir aussi, et puis d'aller à votre rencontre. On ne manquera pas de l'annoncer quand vous organiserez une rencontre, probablement à la librairie Aime-Lire à Château-Gontier.
Je vous remercie pour ce soutien.
Merci Jean-Yves, merci d'avoir été avec nous. Maintenant, retour à la vie réelle ou vie normale. Qu'est-ce que c'est qu'une vie normale? Qu'est-ce que c'est qu'être normal? Et là, ce n'est pas toujours ce que l'on voudrait. C'est Rookin qui nous le dit avec son titre Normal, extrait de son dernier album Mammifère. Écoutez.
J'ai tout fait comme on m'a dit depuis que je suis tout petit. J'ai bien appris, j'obéis. J'ai jamais rien fait de mal. Je suis un être normal. C'est payé et repos. Pensez d'abord à ma peau. J'ai ma place dans le troupeau. Je suis pas un animal. Je suis un être normal. On attend les vacances et le printemps. Parfois même on meurt avant de vivre notre idéal. Vous trouvez ça normal?
Non.
Foutre tout ça en l'air. J'ai déterré la lumière. Si c'est moi que tu préfères, tous les deux mettons les voiles. Loin de cette vie normale. Thank you.
L'actu en bref, c'est maintenant avec trois actualités du coin. On commence à Beaulieu-sur-Oudon. Un incendie s'est déclaré vers minuit cette nuit dans un bâtiment agricole de 500 m². 14 pompiers ont dû être mobilisés sur place et 3 lances ont été déployées pour tenter de maîtriser les flammes. Après 6 heures d'intervention, l'habitation à proximité a bien été préservée. Cependant, le bâtiment, lui, a été entièrement détruit. On sort maintenant sur Laval pour les 80 ans de la bataille de Grenou qui aura lieu le 14 juin. Ça se passera dans le cadre des commémorations de la Libération, ce qui nous permettra de découvrir ce qui s'est passé ici en Mayenne et particulièrement dans ce quartier lavallois, les 5 et 6 août 1944, où a eu lieu une grande bataille opposant les Allemands et les Américains. Au programme sont prévus les circuits audio guidés, puis une exposition et des animations avec notamment des témoignages, de la musique, une projection en plein air du film Les Lavallois dans la Seconde Guerre mondiale, réalisé par Stéphane Pio en 2015. Un temps d'échange et de convivialité, bien sûr ponctué par un repas partagé le soir. C'est un moment gratuit et accessible à tous. Pour toute information, vous pouvez contacter la maison de quartier de Grenou qui accueille l'événement le soir. On termine maintenant en musique. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce week-end, ce sera la 10e édition du festival Musica Vini. Initialement en Mayenne, il a passé la frontière de la Sarthe en 2018 pour s'installer à Avoise, dans le domaine du château de Pesquesolles. Au programme cette année, 3 concerts, en commençant par du baroque avec des solos et des duos de viol de gambe, en passant ensuite par du jazz pour terminer avec un répertoire plus classique avec la soprano Isa Lagarde et le trio Andenmond sur des pièces de Franz Schubert adaptées par Bernard Cavana. Chaque concert sera associé à un vin différent. Je vous le rappelle, on parle bien sûr donc du festival Musica Vini. Ça se passera ce samedi 8 juin à partir de 15h. Comptez 25€ avec une réservation en ligne sur le site du festival ou 30€ sur place. On passe maintenant à la météo. Ce matin, le soleil a dû vous réjouir partout en Mayenne. Seulement, on remarque un retour des nuages cet après-midi un peu partout. Seuls Landivy, Goron, Vilaine-la-Juhel et Pré-en-Paille, ainsi que Quelen-Saint-Gaud d'ailleurs, seront épargnés et garderont de belles éclaircies. Les températures, elles, ne seront pas mauvaises puisqu'elles iront de 18 degrés à 21 degrés. 18 degrés pour Goron et Lehor, alors que Laval, Mayenne et Château-Gontier pourront se réjouir de 3 degrés supplémentaires avec un thermomètre affichant 21. Demain, c'est un retour certain de la pluie puisqu'elle va traverser toute la Mayenne. Un peu de soleil sera présent uniquement dans le nord du département, que l'on jalousera bien évidemment partout ailleurs. Les températures, elles, resteront stables avec un minimum de 17 degrés et un maximum à 21 degrés. Et on termine aujourd'hui notre couverture des élections européennes en partenariat avec Radio Fidélité. C'est un entretien aujourd'hui signé Isabelle Rupin. Écoutez.
9 juin, élections européennes. Une coproduction Radio Fidélité Mayenne et l'autre radio. Nous poursuivons notre tour d'horizon avec les candidats prêts à siéger au Parlement européen à Strasbourg. Pierre-Élie Guyon, bonjour.
Bonjour Nan.
Vous représentez la liste Les Républicains.
Exactement.
Qui est conduite par François-Xavier Bellamy. Vous êtes juriste à Laval, vous êtes en 79e position sur la liste et vous avez déjà été candidat à des élections locales à Mayenne.
Exactement, j'étais candidat sur la liste de M. Adrien Mottet pour les élections de la ville de Mayenne. Donc voilà, c'était une belle expérience politique. Après moi, je suis engagé depuis assez longtemps en politique. Dès mon plus jeune âge, je collais déjà des affiches pour Nicolas Sarkozy en 2007. Ensuite, j'ai fait plusieurs campagnes. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est assez naturel. D'autant que je suis le responsable des jeunes républicains de la Mayenne depuis 2 ans maintenant. Donc voilà, il y a un lien fort avec une ligne, une forme de... Je garde le cap, je n'ai pas bougé, alors que les Républicains, ce n'est pas toujours, tous les jours facile. C'est un parti qui, effectivement, a connu des temps meilleurs par le passé. Mais je pense qu'il faut être assez fidèle à ses convictions, à ses valeurs. Et ceux qui restent sont ceux qui le sont.
Parmi les valeurs que vous défendez pour les Européennes, parce que c'est vraiment le cœur de notre sujet, vous mettez en avant le souhait, alors je cite le programme, « Faire entendre la voix des Français en Europe ». Comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase? Est-ce que la voix des Français n'est pas suffisamment entendue en Europe, vous pensez?
La voix des Français n'est pas suffisamment entendue en Europe avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui, lui, souhaite une Europe fédéraliste, c'est-à-dire dans lequel la France disparaîtrait dans une sorte d'agrégat européen. Or, la liste de François-Xavier Bellamy, elle défend un équilibre juste entre une voix française forte qui défend sa culture, qui défend sa vision diplomatique, qui défend son agriculture, bien évidemment, et d'autre part, une Europe forte qui permet de répondre aux enjeux à la fois économiques, à la fois écologiques, climatiques qui peuvent se poser. Car ensemble, on va être plus fort. Cependant, la France a une voix tout à fait particulière à défendre au niveau de l'Union européenne. On l'a vu par le passé, la France est un pays qui fait partie du Conseil de l'ONU, contrairement à d'autres pays de l'Union européenne. La France est une nation qui, en termes militaires, est très puissante. D'ailleurs, c'est pour cela qu'aujourd'hui, certains souhaitent mutualiser nos moyens militaires, ceux auxquels s'oppose François-Xavier Bellamy, qui, avec le général Gomard, qui est quand même quelqu'un qui a une bonne expérience de terrain.
En deuxième position sur la liste.
En troisième position, c'est Mme Céline Imar, oui, qui est une agricultrice du Tarn, quelqu'un de grande valeur également, qui s'est levée dès les premiers instants contre l'absurdie législative et contre toutes ces réformes qui viennent alourdir le quotidien des agriculteurs. Mais pour revenir sur l'Europe et la France dans l'Europe, la France a une vraie voix au chapitre, une voix qui doit être importante. On le voit avec les crises internationales et c'est là la grande différence entre la famille politique des Républicains et le parti du président de la République. C'est que nous ne souhaitons pas que la France soit au même niveau. La France, elle doit porter sa voix. Elle doit montrer ses divergences sur certains sujets politiques et géopolitiques. Cette capacité, par le passé, qu'elle a pu avoir à résoudre des crises par sa connaissance du monde diplomatique. En France, on l'a vu avec la suppression du corps diplomatique, la velléité n'est pas est à l'inclusion de tous les pays dans une forme de marasme. Alors ça, c'est quelque chose que l'on doit garder, une spécificité que l'on doit garder pour porter une voix à la fois d'Europe de la défense, qu'on doit défendre nos frontières, on doit se défendre contre les agressions qu'on peut avoir de l'extérieur, qui sont à la fois des agressions de déstabilisation politique. François-Xavier Bellamy, d'ailleurs, en a fait les frais par des hackers chinois il y a quelque temps. Ça peut être de la déstabilisation directement militaire, géopolitique, à nos frontières très proches avec ce qui se passe en Ukraine.
Alors justement, Pierre-Élie Guillon, comment est-ce que vous envisagez vraiment la position de l'Europe sur la scène internationale, particulièrement en Ukraine, avec peut-être, en tout cas en ce moment, des affrontements en Géorgie? Et comment évaluez-vous la responsabilité peut-être de l'Europe, hein, qui fait les yeux doux à ces pays? C'est peut-être un petit peu la cause aussi des conflits qu'il y a actuellement. Et comment est-ce que vous envisagez que l'Europe, hein, ensemble, puisse répondre, puisqu'on voit bien que la position diplomatique de la France ne pèse pas beaucoup pour l'instant?
Notre position a été toujours la même, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Au niveau européen, effectivement, il y a un poids beaucoup plus fort qui doit être mis en avant. C'est bien évidemment que l'Europe ne doit pas chercher à s'élargir coûte que coûte, à absorber tous les pays adjacents coûte que coûte. Ce n'est pas comme ça qu'on les protégera au mieux. Non, ce qu'on doit faire, c'est garder notre ligne, par exemple sur l'Ukraine. On parlait de l'Ukraine. On doit continuer à aider l'Ukraine à s'armer. L'Ukraine n'a jamais cherché à avoir un envoi de soldats, que ce soit des soldats français ou des soldats d'une forme d'armée européenne. L'Ukraine cherche aujourd'hui à être indépendante dans son action militaire, son action militaire qu'elle doit mener avec des armes, avec des munitions. Aujourd'hui, on parlait de production de munitions. L'Ukraine n'en produit pas assez. Elle produit 3000 obus par jour, ce n'est pas assez. La Russie en produit beaucoup plus. L'Ukraine manque cruellement aussi de moyens techniques, de moyens de support, par exemple, de tout ce qui va être le renseignement. Là, l'Europe a une force, l'Europe a une place.
Et mais donc l'Europe unie.
L'Europe unie peut avoir une place dans ces sujets-là, mais pour ce faire, on doit être ferme face à la Russie. Et on ne l'a pas été par le passé. Quand l'Allemagne accepte des contrats gaziers avec la Russie, pour moi, elle n'est pas ferme du tout. Et donc elle joue cavalier seul, elle refuse un pacte énergétique européen indépendant qui pourrait être basé sur le nucléaire. Et ce faisant, elle se met pieds et mains liés à une puissance étrangère, à l'Europe.
Donc ça veut dire qu'il y a une voix discordante et désunie de l'Europe là aujourd'hui.
La voix discordante, elle a été par le passé. Aujourd'hui, il y a quand même une union un peu sacrée autour du fait de défendre l'Ukraine face à l'invasion russe.
Cependant, la responsabilité, pardon, de l'Europe dans ce conflit?
La responsabilité de l'Europe dans ce conflit, c'est qu'elle n'a pas été assez claire. Et je reviens sur des sujets économiques,
ouais,
et sur des sujets même de défense internationale. Mmh. Là, aujourd'hui, on a un vrai problème de budget militaire. Quand on voit que l'Ukraine importe à 63% du matériel militaire qui vient des États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser aujourd'hui, alors que l'on essaye de mettre en place des projets européens de défense? On parle d'un blindé européen, on parle d'avions, de nouveaux avions pour remplacer l'Eurofighter. Tout cela, aujourd'hui, il y a des bâtons qui sont mis dans les roues de ce projet-là, donc de une avec le Brexit. Donc c'est pour ça aussi qu'une Europe forte, c'est important, parce que le Royaume-Uni qui sort de l'Union européenne, ce n'est pas que pour faire plaisir aux Anglais. Il y a aussi des contrats qu'on avait mis en place, des contrats de fabrication. On avait mis en place aussi Galileo, un projet de satellite pour remplacer le GPS. En fait, tout cela, c'est important, mais il faut que chacun mette sa part et que chacun essaye d'agir au même niveau.
Ça veut dire c'est aussi que l'Europe prenne son indépendance vis-à-vis des États-Unis.
Ah, je pense, franchement, et c'est un sujet assez fort, l'Europe doit prendre son indépendance par rapport aux États-Unis, mais elle doit prendre son indépendance non pas en s'opposant nécessairement aux États-Unis, mais en montrant qu'elle est forte. Aujourd'hui, comme on peut dire, il faut une France forte dans une Europe forte. Les deux sont intrinsèquement liés. Or, si on cherche du fédéralisme ou à affaiblir l'Europe comme peut le proposer le Rassemblement national, ça n'apportera rien. Ça n'apportera rien sur la scène internationale et ça n'apportera rien à la France.
Pierre Leguillon, je suis désolée parce qu'on est obligé d'aller assez rapidement, mais je note quand même qu'effectivement, dans les propositions de la liste des Républicains menée par François-Xavier Bellamy, l'idée est de proposer de consacrer chaque année au moins 3% du PIB de l'Europe à la défense et de consolider l'OTAN et de donner davantage de moyens à l'état-major de l'Union européenne, ce qui va donc...
Pas d'armée commune, mais un état-major commun.
Voilà, ce qui permet aussi d'intervenir sur... en dehors de l'Europe, oui. Donc notamment par exemple au Moyen-Orient, dont on n'a pas le temps de parler, peut-être aussi concernant la lutte contre le terrorisme.
La lutte contre le terrorisme est intrinsèquement liée à l'immigration. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. Après, la question, c'est de savoir comment...
Ça veut dire que si on chasse les immigrés, on aura résolu les problèmes de terrorisme ?
La question, je ne pense pas, est de faire une chasse aux sorcières. Non, c'est plutôt de contrôler les flux migratoires en Europe. D'ailleurs, la liste de Raphaël Luxemann défend aujourd'hui, une liste pourtant plus à gauche, défend aujourd'hui cette ligne avec des permis. Il y a des solutions qui sont à mettre en place. Aujourd'hui, la liste de François-Xavier Bellamy, et François-Xavier Bellamy, pendant son mandat, a défendu Frontex, a fait en sorte que Frontex ait un budget supérieur, ce qui d'ailleurs n'a pas été voté par certains qui aujourd'hui ont des commissaires de Frontex dans leur liste, ce qui est assez étonnant. Bref, feront-ils mieux s'ils siègent ? Toujours est-il que non, l'immigration en Europe, c'est un sujet qui doit être commun, pour le coup, parce qu'on ne peut pas, la France a une petite frontière, une petite part de frontière, l'Italie a une petite part de frontière, des pays un peu plus, dans lesquels la situation économique est plus compliquée, comme la Grèce, ont une autre part de frontière, et aujourd'hui, on est dépendant d'États étrangers qui n'ont pas du tout la même vision des droits humains, qui se servent de ces êtres humains qui vont traverser la Méditerranée comme monnaie d'échange. Monnaie d'échange contre quoi ? Contre des aides qui ne vont pas toujours, d'ailleurs, à leur population. Monnaie d'échange contre des traités, des accords économiques qui ne sont pas, d'ailleurs, en phase avec notre population à nous, qui a besoin, par exemple, nos agriculteurs qui ont besoin d'avoir des revenus stables.
C'est bien que vous parliez d'agriculteurs, pardon, je suis désolé. Parce que
le temps qui défile. Non,
oui, voilà, ouais. Sur l'agriculture, un petit mot.
Bon, rapidement, sur l'agriculture, ouais. On l'a vu il n'y a pas très longtemps avec la nouvelle coalition qui s'est levée aux Pays-Bas. Les agriculteurs sont dans les partis de coalition. Il y a vraiment un mouvement, et pour l'agriculture, le vrai sujet, c'est la surnormalisation, et c'est un sujet que je connais pour le coup bien de par mon travail, la surnormalisation en termes écologiques, parce que le code de l'écologie, le code d'environnement doit être important. C'est que l'on respecte l'environnement, mais il ne faut pas que ce soit ubuesque. Il faut laisser une latitude d'interprétation au niveau local. On ne peut pas... Les projets sur les méga-bassines, par exemple, ce qu'on appelait méga-bassines, d'ailleurs, ce n'est pas le terme juridique, mais certes, le texte est beaucoup trop long. Il fait 3 pages du code de l'environnement. Comment voulez-vous qu'un juge ait une latitude pour pouvoir dire demain alors ce projet-ci, il est utile, parce qu'il y a des agriculteurs qui ont besoin d'eau pour produire. Ce projet-là ne l'est pas. Aujourd'hui, on ne fait plus confiance à personne, et c'est pour ça qu'on surnormalise.
On aurait pu parler aussi de votre attention au climat, de savoir si c'était vraiment un sujet aussi pour vous.
Oui, c'en est un.
Bon,
mais je pense qu'on
n'a pas le temps de développer. Donc, désolé. Merci beaucoup, Pierre-Élie Guyon, de nous avoir présenté assez rapidement le programme des Républicains, la liste conduite par François-Xavier Bellamy pour les élections du 9 juin, pour lequel nous sommes heureux de donner des éléments de réflexion à nos auditeurs. Émissions qui sont réalisées en collaboration avec l'autre radio de Laval et Château-Gontier. Merci beaucoup, Pierre-Élie Guyon.
Merci à vous.
9 juin, élections européennes. Une coproduction Radio Fidélité Mayenne et l'autre radio.
Donatien, aujourd'hui, a voulu nous parler de bigorexie. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je ne vais pas m'aventurer en improvisation pour vous donner cette explication. Laissons-le faire. Écoutez.
Lors des prochains Jeux Olympiques, Donatien aura beau chercher à échapper à la tornade médiatique qui accompagnera les performances des athlètes, il est probable que certains après-midi, pour peu que la canicule le pousse à rester flemmardé dans son canapé, il se laissera aller à regarder son poste de télévision. D'une part, les commentateurs sportifs ont le don de faire monter le suspense quand approchent la finale, les demi-finales ou même les quarts de finale des disciplines de l'athlétisme, saut en longueur, saut à la perche, lancer de poids et de marteau, 400 mètres haies, fond, demi-fond et l'épreuve reine du 100 mètres. D'autre part, toujours au hasard d'une après-midi caniculaire, enfermé, volet clos dans la maison, on découvre la majesté de l'équitation. Les prouesses du canoë-kayak, du skateboard, du surf ou la fantaisie du beach volley. Cette année, le téléspectateur sera initié aux épreuves de breakdance et retiendra son souffle lors de la compétition d'escalade. Peu probable que cela pousse Donatien à pratiquer une activité sportive. Son voisin, en revanche, est un véritable boulimique du sport. À peine rentré chez lui, il ressort sur son vélo pour parcourir 60 km, et ce, quelles que soient les conditions météorologiques. Il se rend à la piscine plusieurs fois par semaine, se lève potron miné pour faire son footing, participe à des compétitions de triathlon, randonnée obligatoire l'été dans les Pyrénées ou sur l'île de la Réunion. Ses vacances et son emploi du temps tout au long de l'année sont dictés par les impératifs d'une activité sportive intensive. Inscrit dans une salle de sport dont on taira le nom, il est un bon client dans les magasins de sport dont on taira là aussi le nom. Malheureusement, il doit se rendre régulièrement chez son kiné, le même que celui de Donatien. Si Donatien souffre de quelques algies handicapantes mais passagères, lumbago, capsulites et névralgies, son voisin souffre de tendinite, déchirure musculaire, épuisement physique, fracture de fatigue. On connaît l'anorexie, la boulimie, le voisin de Donatien souffre de bigorexie, que l'on peut définir comme une dépendance excessive à l'activité sportive. Finalement, cet été, Donatien et son voisin pourraient bien tous les deux participer aux Jeux Olympiques en partageant une boisson rafraîchissante et un peu de leur temps à regarder la compétition de surf. C'est à Tahiti, en Polynésie, sans bouger du canapé. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day, yeah. We'll be right back.
California Dreaming des Beach Boys. Merci Donatien. L'agité du local, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Jean-Yves Moisy d'être venu nous rejoindre en studio aujourd'hui. L'agité s'arrête maintenant, mais ça continue sur nos ondes. Ce soir, dès 19h, vous vous plongerez au cœur de l'économie sociale et solidaire avec les rendez-vous de la PES, notre émission mensuelle qui vous fait découvrir l'actualité et vous partage des portraits de cette économie engagée. Puis à 21h, il ne faudra pas manquer Frères de Chaussures, l'émission dédiée au rap français et animée par Fatshu, un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de musique urbaine. Nous, on se retrouve demain, même heure, même fréquence. D'ici là, cultivons la bienveillance dans ce que l'on pense et dans ce que l'on dit à voix haute, c'est important. Avec tout cet entraînement, ça ne sera bientôt plus un effort pour nous tous que de faire le bien.
Mince, c'est fini et j'ai loupé un bout de l'émission.
T'inquiète pas, tu peux la réécouter en podcast sur l'autreradio.fr.